Salut la gang, bienvenue à l'épisode de Femmes de fer. Est-ce que vous connaissez l'émission La Voix? La vraie nature, j'espère que vous en avez entendu parler. Ça veut dire que vous connaissez aussi mon invitée, Émilie Fournier, qui est entre autres productrice web pour la maison de production Production Déferlante. Émilie est également chroniqueuse à Salut Bonjour et elle vient de se faire confier son premier grand mandat d'animation pour l'émission 99 Envie d'évasion à Vancouver. Émilie est donc une habituée des caméras, on jase de son parcours, mais aussi j'avais le goût de lui demander est-ce que c'est possible d'être soi-même quand on devient un visage public. On l'écoute dès maintenant. Bienvenue à Femmes de fer, le podcast qui vous aide à atteindre vos rêves les plus fous. Je suis votre animatrice Sophie Momini, rédactrice, productrice et mompreneur qui veut toujours tout connaître sur tout. Je vous invite à vous joindre à moi chaque semaine où je m'entretiens avec des femmes inspirantes. Chaque jour, elles atteignent leur plein potentiel et elles vous donnent leurs secrets pour vous aider à réaliser vos objectifs. Vous êtes prêtes? Let's go! Allô, Émilie!
Salut, Sophie!
Je suis tellement contente qu'on se parle parce qu'on se connaît, on se croise souvent dans les événements, dans ce qu'on fait dans notre travail, mais j'ai jamais eu le temps de m'asseoir longuement avec toi pour parler de ce que tu fais. Pour ceux qui ne te connaissent pas, Émilie, explique-moi un peu ce que tu fais.
En fait, mon job, je vais dire le plus stable et qui prend le plus de mon temps en ce moment et depuis peut-être les 5 dernières années, je suis productrice contenu web et nouveaux médias chez Production Déferlante. Qu'est-ce que ça mange en hiver, ça?
Ouais.
En fait, c'est que chez Production Déferlante, on est une boîte de production télévisuelle, donc on fait des émissions comme La Voix, La Vraie Nature, des choses comme ça. Et chez Déferlante, le grand patron, Benoît Clermont, a décidé que lui, en 2019, allait qu'il y ait des volets numériques sur toutes ses émissions, puis il trouvait que c'était une super plus-value à ajouter pour compléter l'expérience, non seulement en termes de marque, mais également pour le téléspectateur, tu sais, puis qu'on était rendu là.
Mon Dieu, mais on l'aime, lui, j'aime ça entendre.
Oui, c'est un fin renard, c'est un visionnaire.
Puis, génial.
En fait, il est venu me voir, puis moi, j'étais déjà anciennement sur La Voix 3, qui était jadis produit chez Production J, puis il m'a demandé si je voulais mettre en place le département Web Nouveaux Médias de Production Déferlante, qui était la boîte que lui allait ouvrir. Et puis, j'ai accepté l'offre avec grand bonheur, parce que c'est quand même super le fun de conjuguer mes deux passions, soit la télé, puis aussi les nouveaux médias, parce que c'est par les nouveaux médias que je suis rentrée à la télé, ce qui t'explique aussi l'autre chose que je fais dans la vie, c'est-à-dire de l'animation, de la chronique. J'en fais à la télé, j'en fais à la radio, on a travaillé ensemble pour Clin d'œil, c'est que je me promène dans les deux mondes, puis je trouve que ça fait de moi une meilleure animatrice parce que je comprends les contraintes de production, puis ça fait de moi une meilleure productrice parce que je sais ce à quoi les talents font face.
C'est drôle parce qu'on est la même génération. En fait, on est comme arrivé dans ce milieu-là. Le milieu des médias était un peu en explosion. C'est-à-dire qu'on ne savait plus trop où se placer, qu'est-ce qu'on fait. Notre génération voulait faire de la télé. Je ne sais pas si c'était le cas, si c'était la même chose pour toi, mais moi, j'écoutais Musique Plus puis je me disais, my God, je veux la job de Anne-Marie Wittenshaw puis je veux faire ce qu'elle fait puis je veux être VJ, des choses comme ça où je veux être chroniqueuse à Salut Bonjour. On est arrivé à vouloir rentrer là-dedans. Ça a explosé un peu. On s'est retrouvé à se dire, mais là, le web arrive, mais là, oui, il n'y a pas de place, il manque de budget, il manque de... C'est comme, ça a été, en tout cas pour moi, ça a été une expérience quand même assez difficile à essayer de percer là-dedans parce qu'il n'y avait pas beaucoup de portes d'entrée, disons-le.
Mm-hmm.
Mais tu as réussi quand même à te faire un chemin là-dedans. Si je retourne au début, là, toi, tu es une fille de Québec, tu as fait tes premières armes là-bas, dans le fond, dans le milieu des médias?
En fait, moi, ce qui est arrivé, c'est que, tu sais, j'ai été chanceuse d'une certaine façon parce que moi, à 12 ans, là, je savais que c'est ça que je voulais faire dans la vie. Je voulais travailler en communication. J'ai passé mon secondaire à dire que j'allais devenir journaliste. Je le voyais, je le sentais, puis j'avais des parents aussi qui étaient super, tu sais, ils comprenaient ce genre d'ambition-là, puis ils m'ont encouragée à comme aller exploiter ça puis essayer plein d'affaires. Fait que ce qui est arrivé, c'est que on se connaît, tu sais de quoi j'ai l'air. Je fais 5 et 10, moi, dans la vie. J'allais aller à l'université, mes parents, 3 enfants, pas nécessairement en mesure de payer les études pour tout le monde, ce qui est bien correct, mais ils m'ont dit, tu sais, Émilie, ça fait plusieurs fois que tu te fais arrêter sur la rue, il y a des gens qui disent que tu devrais être mannequin, t'es photogénique, moi je faisais beaucoup de danse, tu sais, comme super impliquée pour tout ce qui est culturel et artistique, fait que peut-être que t'auras un intérêt à être mannequin, puis toi tu le vois pas en ce moment du haut de tes 14-16 ans à peu près, mais c'est très connexe à ce que tu veux faire dans la vie, puis ça pourrait être une façon de payer facilement tes études. Donc, Donc, est-ce que ça t'intéresserait d'aller voir ça, des agences de mannequins? Parce que là, il y avait, bon, un grand congrès à Québec, puis j'ai rencontré des agences de mannequins. Puis c'est vraiment par le mannequinat, en fait, que je suis tombée dans le milieu des médias rapidement à l'âge de 16 ans, parce que venant de Lévis, comme tu dis, dans la région de Québec, il n'y a pas vraiment de gros défilés, il n'y a pas de semaine de mode, c'est pas là où les gros shootings photos des magazines ont lieu, c'est à Montréal. Puis moi, je ne voulais pas lâcher mes études, je voulais faire ça pour payer mes études. Donc, j'ai refusé d'aller à Montréal avec des agences qui aussi voulaient me faire perdre du poids, puis ça, c'était vraiment trop loin de moi, je ne voulais pas aller là. Pour finalement me concentrer à Québec puis le faire à plus petite échelle, et ce qui m'a permis de faire énormément de tournages publicitaires, de travailler sur des sets de télé, de rencontrer des réalisateurs, de rencontrer des gens qui organisent des castings, ce qui fait en sorte que rapidement, j'ai développé déjà une expérience de travail sur des plateaux de tournage, puis ça a juste confirmé en fait que j'étais bien là-dedans. Puis j'aimais vraiment ça. Puis ça, c'est la mode qui m'a permis de le découvrir. En fait, de valider que mon idée d'aller en com, ben c'était peut-être vraiment ça ma voie, là, tu sais, ma destinée. Donc, ça m'a permis de payer mon université. J'ai étudié en communication. Puis après ça, je suis allée à Montréal faire ProMédia. Ma force a toujours été de saisir l'opportunité quand elle se présentait à moi. Ouais. Puis pour en revenir à ta question de base, comment j'ai réussi à tailler ma place, ben c'est que j'ai essayé. Tu sais, quand le train passait, là, j'ai sauté dedans, quitte à me planter. Puis c'est arrivé qu'il y a des contrats que ça n'a pas bien été. Ouais. Mais en même temps, ça fait en sorte que rapidement, à partir de 16 ans, j'ai commencé à accumuler un bagage professionnel. Donc aujourd'hui, à 33 ans, ça fait un petit bout déjà que je baigne dans le milieu. Tu sais. Donc après ça, gérer des équipes, arriver sur un plateau comme Salut Bonjour, où il y a 500 000 personnes qui écoutent ma chronique quand je fais ça avec Gino les matins, ben j'étais en mesure de supporter ce poids-là puis de livrer malgré la pression. Ma vingtaine a quand même été très, très axée sur le travail, tu sais. Je ne le regrette pas du tout, mais il a fallu que je fasse un peu ce sacrifice-là de dire, par exemple, quand j'ai eu mon premier gros contrat à Salut Bonjour Week-end, je ne pouvais pas être plus aux antipodes de mes amis. Je travaillais les week-ends, je redescendais à Québec, je me levais à 2h50 AM pour commencer à être en onde à 6h le matin. Tu sais, c'est sûr que je finissais pas à 3h autour d'une poutine après une soirée bien arrosée, mettons. Mais en même temps, je suis contente de l'avoir fait. Oui, totalement, puis j'ai aucun regret.
C'est l'expérience de travail que tu es allée te chercher en faisant tous ces contrats-là, de dire oui à ça, de jamais dire non. Finalement, c'est ce qui fait que plus ça s'accumule, plus les gens te font confiance, plus les gens se disent comme Émilie est toujours là, Émilie est bonne, Émilie est productive, elle a une éthique de travail. Puis finalement, c'est de cette façon-là qu'on se construit un portfolio. C'est pas juste en étant là puis en disant coucou, je suis là. C'est vraiment en travaillant et en rentrant dedans, comme on dit. Parce que là, quand t'es allé chercher le premier contrat, est-ce que t'es allé cogner des portes, t'as fait comme let's go, allô, j'existe, ou par l'expérience déjà que t'avais accumulé, ton nom circulait?
Bien, en fait, je vais faire du pouce sur ce que tu viens de dire, au sens où c'est vrai que moi, je pensais sortir de la télé, avoir un premier appel, et là, boum, tu sais, j'allais devenir une grande célébrité. Et là, je me suis rendu compte, parce que tu vois, aujourd'hui, j'ai 33 ans. Cette année, j'ai eu pour la première fois mon émission, tu sais, à moi, si tu veux, qui est 99 en vie d'évasion Vancouver. Ça va avoir pris pratiquement 10 ans avant qu'on me confie un mandat comme ça. Puis pendant quelques années, frustrée de ne pas sentir que j'avais ma place. Puis on en parlait au début de l'entretien, de dire la production télévisuelle en ce moment, on est en crise, un peu la crise des médias, on tente de tout redéfinir, ce qui fait en sorte que pour les diffuseurs, maintenant que je travaille avec eux comme productrice, je les comprends. C'est-à-dire que tu perds des codes d'écoute, tu perds des budgets, donc eux ont une pression c'est impossible de se dire il faut qu'on fasse des shows qui vont attirer le même nombre, il faut qu'on aille le million de codes d'écoute encore parce qu'on doit vendre notre publicité. Est-ce que c'est là où les diffuseurs vont prendre le risque de développer un nouveau talent et d'envoyer une fille à l'écran qui n'est peut-être pas en mesure de livrer le mandat? Avant, on était tolérants. T'sais, on donnait une chance, une première saison, on s'adaptait, deuxième saison. Pense au talk show de Penelope McQuaid les premières années, comment tout le monde en parlait, mais on lui a laissé le temps de se placer. Puis des shows, mettons, nous autres, on a fait XOXO l'an passé, là. Bon, c'est une toute autre histoire, puis on est resté là-dedans. Mais on a zéro eu le temps de s'asseoir, de prendre du recul, puis de pouvoir corriger. C'est plus un luxe qu'on a. Pour en revenir à ma première expérience, c'est de se dire, ben c'est correct aussi que j'ai pris le temps de me bâtir. C'est correct d'apprendre comment ça fonctionne une production. C'est correct de trouver ta méthode de travail pour apprendre tes textes, de savoir comment t'es à l'aise, toi, à amener une entrevue. Tu peux-tu essayer d'en faire 12 avant d'être comme sur le gros plateau puis de devoir faire l'entrevue de ta vie, tu sais?
Fait que... Oui, parce que tout d'un coup, que tu te plantes solide devant beaucoup de monde et tu te brûles. Parce que moi, je connais des gens qui, justement, ont été mis à une place quand même assez importante très, très rapidement en sortant, entre autres, de Promédia. Et ils se sont brûlés et ça leur fait mal leur carrière. C'est fini en 2 secondes.
Puis c'est aussi de se dire, tu sais, ça va plus loin que c'est subjectif, genre les producteurs t'aiment ou t'aiment pas. Oui, il y a cette notion-là dans ce milieu-là. Puis c'est ça qui est difficile, c'est que tu deviens hyper conscient de qui tu es, de ce que tu livres, de quoi tu as de l'air à l'écran. Tu sais, il faut que tu prennes tout ça en compte, puis en même temps, il faut que tu arrêtes de t'en faire. Fait que, tu sais, moi, au début, là, je prenais tous les commentaires de tout le monde. Fait que là, il y en a qui me disaient, Émilie, tu souris trop. Là, je dis, OK, mais tu me connais, je suis une fille super bubbly, j'ai de l'énergie, ouais. Tu sais, je suis tout le temps de bonne humeur. Fait que, ben, OK, bon, je vais essayer de pas sourire. Oui, mais là, on te reconnaît plus. Bon, OK, là, je vais essayer de sourire à moi. Tu sais, là, les talons hauts, t'es plus grande que tout le monde, faudrait pas que t'en mettes. Ouais, mais j'aime la mode. Cette robe-là, moi, je trouve que le look, OK, non, bon, je vais me mettre en jeans. Ouais, là, le jeans, ça marche. Tu sais, c'est comme, fait qu'à un moment donné, t'es pris dans les contraintes de tout le monde, puis c'est ça qui arrive, c'est que tu t'oublies. Puis tu trouves pas ta couleur. Fait que tu sais, je pense que c'est super important de non seulement prendre une expérience à la fois, d'être patient, puis de se dire, écoute, moi quand je vais arriver là, ben je vais arriver prête, puis je vais pas laisser tomber mes coéquipiers. Puis en fait, au final, là, ce qu'on fait, puis pourquoi on travaille en communication là, c'est pour parler avec du monde, à du monde, avec du monde. Tu sais, c'est un travail d'équipe. Ouais. C'est pas juste dire moi je vais être connue, c'est de se dire moi je vais être le porte-parole d'une super équipe de prod, puis on va mener un show à terme. Tu sais, et je pense que cette vision-là aide énormément dans le parcours que tu te crées pour arriver là dans la vie. Moi, après Promédia, ce qui est arrivé, quand je te parle de prendre des opportunités, puis là, il y avait, je ne sais pas si tu te souviens de ça, le concours Blogueuse Twic.
Oui!
Bété est devenue la blogueuse Twic.
Ouais.
Puis là, moi, j'étais sûre que c'était ma grande destinée de devenir la blogueuse Twic. Et je voulais donc gagner et j'étais certaine que ça allait être mon grand breakthrough qui cumulait toutes mes passions. l'ai pas eu pantoute. Sauf que ce qui est arrivé, tu sais, quand on dit des fois là, des opportunités puis tu lances ça dans l'univers, c'est un peu ésotérique, mais c'est ça pareil. Mon ami Jack pour les intimes, lui travaillait déjà en boîte de pub à Montréal et il était en train de créer le premier projet multiplateforme pour Québécois. Donc, en fait, en gros, c'était des capsules web qui allaient aussi être diffusées à la télé avec un blog, des réseaux sociaux et tout ça. Il faisait plusieurs fois qu'il faisait des auditions et il ne trouvait pas la fille pour le rôle. Il ne la trouvait pas. Et Jack est tombé sur ma capsule qui était en fait pour Blogueuse Twic. Puis il a fait, mais c'est ça. Dans le fond, la réponse était là. C'est toi dont on a besoin. Il m'a appelé en disant, on refait des auditions. Présente-toi, j'ai un bon feeling. Et là, je suis arrivée en mode ninja. J'étais tellement prête. J'étais comme, là, c'est là que ça va se passer. Puis ça va arriver. Puis je dois avouer qu'une de mes forces dans la vie, c'est d'être focus. C'est qu'il faut être bon quand ça compte. Renan Angelil dit ça à Céline. Mais j'essaie d'appliquer ça quand même. T'sais. C'est que je suis arrivée là-bas, puis ça a super cliqué. Ça a cliqué vraiment très, très fort avec l'équipe. Puis j'ai eu le contrat, puis ça a été comme ça que j'ai eu mon premier poste, si tu veux, dans la télévision. Et c'est ce qui explique aussi pourquoi j'ai développé tout le volet numérique. Ce projet-là était la création de contenu.
J'espère que vous aimez l'épisode d'aujourd'hui. Avant de continuer, je vous invite à consulter le site web de Femmes de Fer où je vous ai préparé un e-book gratuit dans lequel vous avez 5 astuces pour savoir comment bâtir votre liste de courriels. Alors, si vous voulez pousser le sujet encore plus loin pour vous aider à bâtir votre entreprise, allez sur sophiem.ca/femmes-de-fer-podcast. Fait que là, tu combines un peu les deux avec Production Neverland. Donc,
mon rôle, c'est vraiment celui d'une productrice. Donc, moi, j'ai mis en place un département web nouveaux médias. Donc, avec moi, il y a une équipe qui travaille pour faire l'application, si tu veux, des stratégies web que l'on crée pour chacune de nos émissions. Par exemple, tu prends La Voix, tu as ta production télé, mais parallèlement à ça, moi, je gère toute la production pour les plateformes numériques. Donc, on a une communauté Facebook qui est à quoi? 450 000 abonnés, un compte Instagram à 80 000, compte Twitter à 150 4000 personnes, notre site web qui a je sais plus combien de millions de pages vues, tu sais, chaîne YouTube aussi. Donc, en gros, ce que je fais, c'est de prendre, OK, la marque La Voix cette année, on s'en va où? Qu'est-ce qu'on veut dire? Qu'est-ce qu'on raconte comme histoire? Donc, on s'assoit avec l'équipe télé, avec l'équipe de TVA, décide un peu, en fait, on m'informe plutôt de la direction artistique de la production cette année, la direction contenu aussi. Donc, moi, je prends ça, puis c'est comme si je le mettais dans un entonnoir, puis là, après ça, je fais sortir comment ça va se déployer sur les réseaux sociaux pour que la marque rayonne sur toutes les plateformes. Donc, en plus de ça, ben, c'est sûr que maintenant, il y a de la production numérique à part entière. Donc, je vais déposer pour obtenir des subventions pour faire peut-être une série sur tout.tv qu'on va mettre sur tva.ca. Ce genre de choses-là tombe dans ma cour aussi chez Desferlandes. Puis sinon, comme j'ai un poste, si tu veux, de direction, on pourrait dire, mais je suis dans le développement des affaires. Donc, développement des affaires, ça peut aussi être d'avoir des clients en numérique. Donc, moi, j'ai eu des clients pour qui on fait la gestion de communauté qui se disaient « Hey, c'est qui fait la stratégie web de La Vraie Nature? Mettons, ils sont bons, ils pourraient-tu m'aider? » Puis c'est sûr qu'on connaît quand même beaucoup d'artistes dans le milieu. Donc, on va aider des fois des chanteurs, des animateurs. Plus de tout ça, c'est sûr que Desferlandes, à la base, c'est une boîte télé. Donc, je m'implique dans le développement télévisuel de bien des concepts. Puis après ça, ben, on les présente aux diffuseurs. Puis s'ils disent oui, on les produit, puis on est bien contents.
Est-ce que tu es surprise de te retrouver dans un poste de direction comme ça? Toi, la fille qui voulait faire de la télé, dans le fond, est-ce que tu es surprise d'être en arrière aussi?
Je trouve ça quand même absurde de me dire, j'ai fait un bac en communication. J'ai voulu travailler en télévision, puis pendant toutes mes études, que ce soit en cours privé ou mon bac, jamais on m'a dit, hey, dans la vie, là, tu peux devenir productrice. Hey, il y a des jobs, ça s'appelle réalisatrice, directrice de production. Ça peut être monteuse, ou tu sais, c'est comme si ces métiers-là, derrière la caméra, même quand tu t'en vas aux études, c'est pas connu.
Mis de l'avant.
C'est pas... Ouais, c'est ça. Comme s'il y avait juste une option, soit d'être connu ou pas. Tu sais, c'est, mais voyons, il y a autre chose entre être, mettons, animatrice et relationniste de presse ou faire de la publicité, mettons.
On peut quand même glisser un mot, Émilie, sur le fait de la star instantanée, la célébrité au niveau du web, parce que, tu sais, ça marque quand même la nouvelle génération de se dire, et même ma génération, c'était un peu ça, on rentrait puis on se disait, ben pas moi, parce que moi, j'ai toujours été un peu plus underground, no profile, j'aime beaucoup rechercher les choses, poser des questions et tout ça, mais il y a beaucoup cette culture-là de se dire « je vais me faire voir, j'ai des centaines de milliers de followers, je suis une vedette, donc les gens me veulent et je vais être populaire. » Puis on va se dire, là, je pense que si on pense comme ça, on se casse le nez tout de suite.
Ah, mon Dieu,
puis on va se brûler tout de suite.
C'est sûr qu'il faut trouver une façon des fois de présenter des nouveaux talents parce que quand tu développes des émissions, il faut que tu aies un fit. T'sais, la personne qui va porter ton contenu à l'écran, il faut qu'elle incarne ça. Des fois, il y a des gens qui ont déjà ce qui est le fun des réseaux sociaux, c'est que ces gens-là ont déjà développé une marque, donc ils sont déjà crédibles, ils ont déjà un auditoire qui est fidélisé, ce qui est un beau plus pour des gens qui hésitent parfois à prendre des risques, à développer des nouveaux talents. En même temps, être influenceur, faire un vlog, c'est génial, mais ça ne veut pas dire que tu es animateur. C'est deux jobs complètement différents et c'est là souvent où on fait des erreurs de mettre ces gens-là tout de suite à la caméra. Par contre, si tu as déjà un certain talent, et ça se peut, puis on en a vu, là, c'est juste de bien les entourer. Puis après ça, c'est de trouver le réalisateur ou la réalisatrice qui va être en mesure de comprendre l'essence même du personnage, de se dire, OK, on va aller chercher ça. Puis pour aller chercher ça, je vais diriger cette personne-là comme ça. C'est là où le travail d'équipe prend toute la place, en fait. Et c'est là où je trouve que ça démontre à quel point, même si on parle d'être une star, de ce que cette personne-là a le spotlight sur elle, cette personne-là, c'est là le spotlight sur elle, c'est la porte-parole de l'équipe, tu sais. Parce que c'est bien beau être connu sur des plateformes numériques, puis bravo à ceux qui le font, puis j'en ai des amis créateurs de contenu, là, et je sais à quel point c'est de la job. Alors, respect, là, tu sais. Je suis pas en train de dire qu'être animateur, c'est mieux qu'être influenceur. Pas en tout. C'est deux jobs différents, c'est juste ça. Puis il faut apprendre à travailler ensemble.
J'ai goût de parler avec toi, Émilie, aussi, parce que tu en as glissé un mot au niveau de l'image, de se faire dire « t'es ci, t'es ça, t'es pas ci, t'es... » En tant que fille dans le milieu, que ce soit au niveau des médias sociaux, au niveau de la télé, au niveau du mannequinat, ça doit être extrêmement difficile de se dire, de trouver sa personnalité à soi.
Ah, oh, mon Dieu! Je pense que c'est la plus belle question que tu m'as... pas juste toi, qu'on m'a jamais posée. T'as-tu deux heures?
Je pense que c'est un combat d'une vie de se trouver soi-même aussi, puis d'accepter qui on est, puis d'être capable de se mettre de l'avant comme on est. Puis en tant que fille qui est souvent sur Instagram, même moi, j'ai extrêmement la difficulté à dire, ben voici qui je suis, puis c'est ça. T'sais, j'ai des fois, je me trouve dégueu le matin, puis ben non, je le montre pas. Puis peut-être que je devrais le montrer. Je trouve que c'est un combat extrêmement difficile dans le milieu des médias. En tout cas, je voulais avoir ta vision qui te vient à l'esprit quand je parle de ça.
Je te dirais, je pars de loin par rapport à tout ça, puis je comprends tout à fait ce que tu dis au sens où c'est pas facile, puis des fois, je me sens déchirée. Moi, récemment, j'ai fait énormément de travail sur moi-même. Là. J'ai consulté, j'ai changé des habitudes de vie, j'ai fait du ménage avec certaines personnes qui étaient dans ma vie, puis c'était peut-être pas nécessaire et ça m'apportait peut-être pas grand-chose au final. Mm-hmm. Parce que j'avais envie d'être focus sur les bonnes affaires. Puis ça va tellement vite, on est tellement anxieux tout le temps. J'ai comme envie de réduire le négatif puis de miser sur le positif puis de c'est quétaine, là, mais d'être dans la gratitude, mettons.
C'est pas quétaine. Je pense que le mot gratitude devrait être partout, à tous les jours, pour se le rappeler au moins à tous les matins.
Moi, j'ai passé, comme je te disais, ma vingtaine à travailler. Tu sais, ma grand-mère m'a toujours dit, c'est beau parce qu'on te voit, tu bâtis, c'est super inspirant, puis tu travailles fort, bravo, tu fais bien les choses, mais comme rendu à 33 ans, ça serait le fun de te voir t'épanouir, de te voir juste être bien, d'avoir quelqu'un aussi sur qui tu peux t'appuyer, comme qui va être là pour toi, tu sais, un chum qui va être là pour toi aussi, puis les amis, je mets ça là-dedans, la famille aussi, puis c'est un peu là-dedans. Fait qu'après ça, quand tu rajoutes l'histoire de l'image, de la perception via les réseaux sociaux, d'être public, gérer ça et gérer être bien et s'épanouir, me semble que c'est comme une grosse question d'équilibre qui est pas si simple à gérer, mettons.
Ouais.
J'ai décidé, pour ma part, que ça passait beaucoup par arrêter de vouloir être la plus toute, la plus parfaite, la plus mince, les plus beaux cheveux, la plus bien habillée, celle qui remet pas deux fois la même affaire, celle que ses posts Instagram sont parfaits. Non, je suis plus, tu sais, comme... C'est pas vrai que ça va être ça ma vie. C'est pas vrai que je vais passer du temps avec mes amis. Des fois, je vais mettre une photo sur Instagram, ça va me faire plaisir. Des fois, j'en mettrai pas. Des fois, je pars en vacances, je te mets tout mon voyage en story. Des fois, je le fais pas, ça me tente pas, je suis fatiguée.
Je te comprends parce que je suis dans ce même questionnement-là en ce moment. Puis c'est, en fait, c'est un peu pour ça que je fais le podcast parce que j'avais une envie de parler des vraies choses puis de pas être dans l'urgence ou dans le paraître ou dans la vidéo. J'avais le goût d'avoir une conversation que j'ai souvent avec beaucoup de monde et que je me disais, mais faudrait partager ces conversations-là. Puis ce projet-là me permet de faire ça et j'ai l'impression que ça permet aux gens qui écoutent aussi de se dire, ah, OK, je prends un moment là, puis on jase, on se parle entre filles, on s'écoute, puis j'entends ce qu'elle me dit, ce que l'autre a peut-être, que, puis ça nous fait réfléchir, puis j'avais besoin de ça dans ma vie.
C'est ça, connecter à qui on est vraiment, puis pourquoi on fait ça, puis c'était-tu vraiment pour comme être la plus toute que tu voulais travailler en com, toi? Moi, c'était pas ça. C'est quoi ce moteur-là de compétition? Puis tu sais, il y a aussi, je fais un parallèle, puis il est peut-être boiteux, là, mais tu sais, on parle beaucoup de féminisme, puis on parle beaucoup de les femmes s'aider entre nous. Puis je trouve que de maintenir ce climat de tension et de comparaison et de paraître tout le temps, ça fait en sorte qu'on s'aide pas.
C'est on s'aide si pas pantoute, non?
On s'aide pas. Les gars, là, me semble, sont pas dans cet esprit-là. Puis on a à apprendre d'eux, tu sais, là-dessus.
Oui.
Fait que le Boys Club, là, let's go. On amène cette énergie-là aussi chez les femmes, tu sais. Puis donnons-nous donc une chance. Tu sais, moi, je dis souvent à mes amis... Mettons, là, toi, tu passes une mauvaise journée, là, puis là, t'es dur envers toi-même, puis tu te remets en question, puis je suis comme, hey, toi, tu me parlerais-tu de même si c'est moi qui avais une mauvaise journée? Non. À un moment donné, il faut aussi arrêter de s'en imposer autant. Moi, je voulais être connue, là, tu sais, je voulais être Véronique Cloutier, là. Je regarde Marie-Pierre Morin, là, il y a quelques années, j'aspirais encore à ça. Puis, tu sais, pas que je connaisse ces filles-là personnellement aujourd'hui, puis bravo pour leur carrière, puis vraiment chapeau. Mais quand je regarde déjà, moi, le nombre de sacrifices que j'ai fait, ce que ça veut dire travailler à notre niveau en termes d'horaire, en termes de pression, en termes de gestion du public, tu sais, ça m'arrive pas comme Véronique Cloutier, mais ça m'arrive des fois là, de faire du jogging puis de me faire arrêter par une couple de personnes. Puis des fois, même si ça fait partie de la job, c'est pas toujours facile à gérer, tu sais. Fait que j'ai comme changé aussi mon fusil d'épaule en disant, je veux-tu vraiment être connue pas tant. Moi, je veux être crédible et pertinente dans ce que je fais. Puis tu sais, Céline, c'est connu, c'est parce que c'est une athlète olympique du champ. Puis comme, pour en revenir à ce qu'on disait, oui, c'est sûr qu'elle fait rêver, mais je pense que tu as un bon point. Ta vie, là, ça doit pas être si simple que ça. Puis nous, on est peut-être dans un bon équilibre.
Est-ce que tu as des regrets de ce que tu as fait dans ta carrière jusqu'à maintenant?
Des regrets par rapport à des contrats professionnels, mettons, que j'ai fait? Non. Ça, j'en ai pas. Parce que je pense qu'il faut vraiment voir chaque chose comme étant une expérience puis un apprentissage. Puis là encore, je retombe plus dans l'humilité, la gratitude, l'apprentissage. Que en fait, mon regret, c'est de ne pas avoir compris ça plus tôt. Je serais plus loin en animation. J'ai été ma pire ennemie, en fait, à vouloir trop être parfaite, justement. Je suis devenue, je pense qu'aux yeux des autres, j'ai pu avoir l'air très intransigeante alors que j'étais intransigeante envers moi-même et non pas envers eux. J'étais nerveuse, t'arrives sur un plateau, là, salut, bonjour, week-end, ça fait des années que ça roule. Là. Moi, c'est ma première gig là, officielle, que ma face est sur le poster. Là, ben, c'est sûr que tu es en direct pendant 4 heures, tu te lèves aux petites heures du matin. J'en ai fait des erreurs, puis c'est correct. T'sais. Mais c'est comme si je me le pardonnais pas. Puis après ça, cette pression-là, je sais que j'ai pas été toujours la plus agréable à côtoyer, puis que mes questions, qui étaient juste des questions de base, je les ai peut-être pas... bien exprimé.
C'est quoi ton plus grand défi en tant qu'animatrice?
Toutes les belles affaires que je te dis là, puis dont on jase, puis comme c'est bien le fun, puis c'est vrai que ça fait du bien, puis je le pense sincèrement, ça va être de rendre ça à l'écran.
Ouais.
Tu sais, comme là, j'ai des projets qui s'en viennent, puis quand je pense à ce qui est sur la table, je me dis, ilala! OK. Là, je retombe tout de suite dans la pression. Et il va falloir que tu livres, Émilie, il va falloir que tu sois bonne, c'est ta chance, c'est maintenant ou jamais. Alors que dans le fond, je devrais avoir la même énergie que j'ai eue quand j'ai fait 99 Envie d'évasion, puis que j'étais avec deux filles que j'adore, Jill Mickey à la réalisation, puis Tania Martin à la recherche.
Ouais.
Puis qu'on était comme 3 chums de filles, on se parlait pour vrai, mais devant une caméra, puis c'est cette énergie-là qui a été transmise dans l'émission, puis c'est là où on a compris j'étais qui réellement.
Okay.
Après ça, quand moi j'ai vu l'émission, mais j'ai fait « Ah, cool, mission accomplie » parce que là, j'ai l'impression que les gens me connaissent moi puis que je suis pas en train de mettre un costume d'animatrice.
Fait que ces projets-là, disons, là, est-ce que c'est cette année ou 2020?
Oui.
C'est
cette année? Ben, cette année 2020. Ça va jouer sur les 2 années. Il n'y a rien de fait encore, fait que c'est pour ça que je ne veux pas en parler, mais ouais. Ça sent bon, ça augure bien. Puis en bon français, je ne veux pas jinxer la patente. Puis tu sais quoi, si ça ne marche pas, ce sera autre chose. Mm-hmm. Une personne qui m'inspire beaucoup, c'est Jean-Philippe Dion. Il est vice-président d'ailleurs chez Production des Ferlantes. On a travaillé ensemble au début de ma carrière sur Star Academy, notamment. Jean-Philippe, là, c'est un gars qui travaille tellement fort.
Incroyable.
C'est incroyable. Il y a une éthique de travail, la plus grande éthique de travail que j'ai jamais vue, je pense.
Oui.
Il m'inspire beaucoup parce qu'il s'implique à 200% dans ses projets. Il anime, il produit La Vraie Nature. Puis je pense sincèrement que ça fait des projets plus complets, plus incarnés.
Oui.
Puis c'est tellement le fun de s'impliquer. Puis c'est tellement le fun d'avoir les deux mains dedans. Que c'est cool, là, animer. Puis je vais toujours être contente de le faire, mais d'avoir l'opportunité de réfléchir vraiment à un concept, puis après ça, d'avoir le privilège de le porter à la caméra, c'est quand même fantastique comme mandat. Tandis que juste animé, des fois, tu rentres chez vous après et t'es comme, bon, qu'est-ce qu'on fait?
Ouais.
C'est ça. Donc, j'aime beaucoup ce côté de production-là.
Écoute, la meilleure façon de te contacter, Émilie, c'est quoi?
Instagram, je dirais EM Fournier sur Instagram. Je suis pas mal tout le temps là-dessus pour la job notamment, parce qu'il faut que je regarde ce qui se fait ailleurs, mais aussi parce qu'on va se le dire, là, c'est le fun.
On s'amuse là-dessus.
C'est très fun. Oui.
Absolument. Puis moi, je regarde toujours tes cheveux parfaits, by the way. Il faut que je te
dise. Oh mon Dieu! Te dire comment l'électricité statique est dedans aujourd'hui. Là, la saison de l'automne et l'hiver est officiellement commencée.
Absolument. Hey, merci beaucoup, Émilie. C'est vraiment un plaisir de t'avoir parlé.
Merci à toi, Sophie. C'est vraiment le fun de se parler de manière super franche comme ça. C'est une belle plateforme que tu crées là. Bravo.
Merci d'avoir été à l'écoute. J'espère que vous êtes incroyablement inspirés pour vos projets. Si ça vous intéresse de garder contact, rendez-vous sur Instagram sur le compte de Femmes de Fer ou abonnez-vous à l'infolettre. Et si vous aimez l'épisode, vous pouvez laisser un commentaire. C'est ce qui me motive à trouver les meilleures femmes de fer pour vous. Et je vous dis à la prochaine!